et bien sûr Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour et bienvenue dans Grimage, votre seule émission sur la culture orale. Alors dans la mesure où c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous parler, il serait peut-être de bon ton que je me présente, ou plutôt que je ne me présente pas. Mon nom n'est pas très important. Tout ce qui compte, c'est que je vais avoir le plaisir de vous guider à travers les méandres de la culture orale. Et émission après émission, je vais pouvoir vous en montrer les rouages, les tenants, les aboutissants et les enjeux, et même partager avec vous certains de mes morceaux préférés. Cette émission, donc, que vous pourrez retrouver sur Radio Campus toutes les deux semaines, si tout se passe bien, se déroulera à peu près de la même manière chaque fois, c'est-à-dire que je commencerai par une introduction, au cours de laquelle je vous parlerai d'un sujet en lien avec la culture orale, libre à moi de le choisir, je m'accorde même une certaine liberté dans le choix. Ce sera suivi par une mise en contexte qui préparera le plat de résistance de l'émission, c'est-à-dire le conte, que j'aurai le plaisir de vous raconter moi-même. Le dit conte sera suivi d'une courte, mais pertinente, j'espère, analyse. Après quoi, selon s'il nous reste du temps ou pas, je tirerai peut-être de mon chapeau une surprise de la culture orale. Pour transitionner en douceur vers mon introduction, la culture orale, qu'est-ce que c'est ? C'est une question très vaste, très facile aussi. Mais pour une première émission, il est essentiel de vous dire ce que moi j'entends quand je parle de culture orale. Pour prendre une définition un peu pompeuse qui ne déplairait pas à l'Académie française, la culture orale, c'est l'ensemble des narratifs transmis par le moyen de la parole. Voilà. Pour faire plus simple, et plus ouvert peut-être, la culture orale, c'est tout ce que vous avez reçu d'autres personnes via la parole. Tout. Ça inclut des exemples typiques comme les contes, les chansons traditionnelles, les mythes, mais aussi les blagues, les légendes urbaines, les rumeurs, les on-dit, les tout le monde sait que. C'est ça la culture orale. C'est une culture qui est très particulière et qui se différencie beaucoup de sa cousine plus connue, la culture écrite. Qui se différencie d'abord parce qu'elle est peu reconnue. À l'école, dans vos études, on ne vous enseigne pas la culture orale, on vous enseigne la culture écrite. Que ce soit Balzac ou Flaubert ou plus récemment Ray Bradbury, on vous fait étudier des livres, ce qui est pertinent dans son genre. Effectivement, pour transmettre des données précises, la culture écrite est bien plus avantageuse. Essayez donc de transmettre la composition d'une quelconque substance chimique par une chanson traditionnelle, vous comprendrez la difficulté. Mais surtout, la culture orale se différencie de la culture écrite en un point. Elle est vivante et évolutive. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que ça veut un peu rien dire si je balance les mots comme ça. La culture écrite est fixée. Un livre, que vous le lisiez, que votre frère le lit, que votre famille, vos amis le lisent, le livre est le même. Vous pourrez le relire dans 20 ans, et à part dans vos souvenirs, le livre ne sera pas différent. La culture orale change avec le temps, avec les gens et avec les lieux. Et elle est évolutive dans un sens purement darwinien du terme. Je vais prendre un exemple parce que je vous sens paumé là. Imaginons que lors d'un voyage en Angleterre, je passe par la petite ville de Salisbury, qui est une très jolie ville, je vous la conseille, et qu'on me raconte un conte, une anecdote, sur le clocher de l'église de Salisbury. Revenu en France, ce conte m'a tellement plu que je veux vous le transmettre. Est-ce que je vais vous parler du clocher de l'église de Salisbury que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez sans doute jamais? Non. Je vais vous parler du clocher de l'église de Notre-Dame, de Saint-Bruno. Je vais vous parler de repères que vous aurez, vous. Je peux même aller jusqu'à Paris en termes de repères, c'est pas important. Mais je vais vous parler de quelque chose que vous êtes susceptible d'avoir vu et de comprendre. Et ce faisant, je vais adapter le conte pour vous. Et le conte sera toujours le même. Le conte n'a pas changé. Mais la forme et le fond ont tous les deux évolué pour s'adapter à leur environnement, comme un animal aurait évolué. Bien sûr, il y a des exceptions à ça. Certains contes évoluent relativement peu au cours de leur existence, et ces contes-là rentrent dans ce que j'appelle la tradition orale, pas la culture orale. La tradition orale est un sous-ensemble, qui comprend les contes, les chansons, etc., qui ont été créés et qui subsistent afin de faire exister les traditions et les coutumes d'un peuple. Un très bon exemple de ça, c'est la culture bretonne. Les Bretons sont très férus de contes et s'accrochent violemment à leurs traditions. Aussi, au cours des 100 dernières années, les contes bretons ont relativement peu changé. Bien sûr, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais le narratif reste le même, depuis tout ce temps. parce que les Bretons se battent pour le garder. Je n'émets pas de jugement sur là-dessus, c'est un fait. Il convient quand même de noter que l'évolution, si elle peut être ralentie, ne peut pas être arrêtée. Les comptes ont changé en 100 ans, et ils changeront encore d'ici 100 ans. Et si le fond subsiste et reste relativement le même, la forme change d'un compteur à l'autre. Chaque compteur apporte sa propre forme au compte. Moi-même qui vous parle, quand je raconte une histoire, la forme vient en partie de moi, en partie de ce que j'ai entendu, en partie de ce que j'ai volé à d'autres compteurs, en partie de ce que j'ai envie de vous dire ce jour-là. La forme n'est pas stable. Et c'est ce qui fait toute la spécificité de la culture orale. Et puisque je vous parle de la Bretagne, je pense que c'est le moment de passer à la contextualisation. Ce conte-ci, justement, si sa date d'origine est inconnue, nous vient, ou du moins il le prétend, de Bretagne. Ah, la Bretagne. J'aime la Bretagne. Je le dis sans ambiguïté. C'est une terre magique. Je défie quiconque de se balader dans la forêt de Brocéliande et de ne pas sentir autour d'eux la présence imaginaire de lutins et de fées. Je défie quiconque de se tenir sur un promontoire rocheux au milieu des embruns et de ne pas sentir la magie de l'air ambiant. C'est sans doute pour ça qu'en plus de conserver sa tradition, la Bretagne en crée. La Bretagne attire les contes et les chansons. Écoutez les chansons médiévales composées par n'importe qui. Une bonne partie d'entre elles tirent leurs inspirations de la Bretagne. Je tiens à prévenir les possibles Bretons qui risqueraient d'être choqués. Je ne suis pas breton. Je n'ai pas vécu en Bretagne, et si je l'ai visité, je ne la connais pas par cœur. Je ne parle pas le breton. Et le conte qui va suivre peut ou peut ne pas être authentique. Les mots qui sont en breton dans ce conte peuvent être grammaticalement incorrects. Peu importe, le conte subsiste. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8. Ce conte-ci tire ses origines de la Bretagne médiévale, là où, pour reprendre les expressions du poète, les oiseaux chantaient en latin. En ce temps-là, et il est important de le savoir pour la suite du conte, chaque Breton disposait d'un petit lopin de terre, pas forcément un champ, pas forcément des grandes propriétés, mais chacun avait son petit potager pour nourrir sa famille. Chacun sauf le personnage principal de mon histoire. Il s'appelle Gaël. Gaël sans terre, on l'appelle pour se moquer de lui. Le pauvre Gaël, avec une femme et un enfant à nourrir, est le seul homme de la Bretagne, attention, le seul, à n'avoir aucune terre. Aucune. Rien. Si, le sol de sa cabane, c'est tout. Alors, comble de l'humiliation, pour permettre à sa famille de subsister, il va travailler dans les champs des autres. Tous les matins et tous les soirs, il se jette sa bêche sur l'épaule, et il se tape une heure à pied pour aller travailler dans les champs de quelqu'un d'autre qui accepte de le payer. Quelle humiliation. L'histoire aurait pu s'arrêter là, elle n'aurait pas été très passionnante. Seulement voilà, tous les matins et tous les soirs, en allant au champ et en revenant, Gaël passait à côté d'un superbe champ en friche, à la terre grasse et riche qui présageait un blé blond. Seulement voilà, on n'y touchait pas. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était ce qu'on appelait un trou à corrigan, ou corrigan d'Oaren en breton. Et qu'est-ce que c'est qu'un corrigan ? J'imagine que vous vous demandez. Eh bien un corrigan, c'est un petit lutin, haut comme trois pommes, littéralement. Un petit lutin très facétieux, avec une toute petite tête fripée comme une pomme qu'on a laissée sur le rebord de la fenêtre un jour d'été, de grandes oreilles pointues, des petits yeux malicieux, une petite barbiche, et en général des boucles d'oreilles en or. Et ce qu'il faut savoir sur les corrigans, c'est qu'ils ont beaucoup d'humour, mais que c'est un humour qui ne fait rire que les corrigans. Plus d'un breton est rentré chez lui le soir avec une jambe en moins ou un sac de pièces d'or en plus, selon comment il avait joué à leur jeu. Et il existe donc certains endroits en Bretagne, que ce soit des cromlechs, des maisons abandonnées, des menhirs, des collines, parfois juste un point aléatoire dans un marais, des endroits qui contiennent des terriers qui mènent vers les repères souterrains des corrigans. Et on ne s'en approche pas. Jamais. Seulement voilà, un matin Gaël n'en peut plus. Il se jette sa bêche sur l'épaule et il part labourer le champ à corrigan. Hop, il met sa bêche en terre, un petit coup de pied, il retourne un petit peu de terre et il entend une petite voix soudain. Une petite voix derrière lui qui lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Il se retourne. Derrière lui se trouve un tout petit corrigan, encore plus petit que les corrigans normaux, avec un grand sourire qui lui va d'une oreille à l'autre. Et il le regarde tranquillement. Merde. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui a toujours dit qu'il fallait répondre aux créatures magiques, alors...
Je laboure.
Et qui t'en a donné la permission? Demande le Korrigan. Personne? Alors attends, on vient t'aider. Et 10, 20, 50, 100 Korrigans qui sortent de terre et qui retournent, oh, pas grand-chose, une toute petite poignée de terre. Mais avec 100 Korrigans, en une journée, le champ est retourné. Et Yael rentre chez lui heureux, en sifflotant. Il passe la porte et il dit à sa femme, « Femme, je suis désolé, hein, je m'excuse envers toutes les femmes, c'est comme ça qu'on parlait à sa femme à l'époque, je ne cautionne pas. « Femme, dit-il, devine quoi, j'ai labouré le champ à Korrigans. » Il est interrompu par la collision d'un pot de fleurs avec son visage. Et sa femme de lui crier dessus, de lui expliquer que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, si elle l'avait connu, lui auraient dit la même chose. On vivait pas vieux à l'époque. On ne touche pas au champ à Korrigans. On ne s'approche pas des Korrigans. Oui, mais c'est pas pareil, lui répond-il. Ils m'ont aidé. Et de lui raconter l'histoire. Et sa femme d'admettre que... on dirait bien que oui. Pour une fois, peut-être que les choses vont en leur faveur. Alors le lendemain, avec l'approbation de sa femme cette fois, Gaël se lève très tôt. Et il va au village, au marché, où il achète un grand sac de blé avec toutes ses économies. Et il va dans le champ. Il attrape un petit peu de blé et hop, il le jette. Et il entend une petite voix immédiatement derrière lui qui lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Il se retourne. Un petit Korrigan se tient devant lui. Le même, un Korrigan différent, il ne saurait pas dire, ils se ressemblent vraiment tous, c'est pas raciste. Mais peut-être que celui-ci a une émeraude au lieu d'un saphir sur son oreille, on ne sait pas bien. « Eh bien, je sème, » répond-il, confiant. « Et qui t'en a donné la permission ?» Personne. Alors attends, on vient t'aider. Et 10, 20, 50, 100, 200, 500 Korrigans qui sortent de terre et qui jettent, oh, pas grand-chose, deux petits grains de blé. Ah, mais avec 500 Korrigans, en la journée, le champ est semé. Et une fois de plus, Gaël rentre en sifflotant. Et le blé commence à pousser. Oh, pour l'instant, il est encore tout petit, hein, mais il est vert, d'un vert profond qui prévoit une superbe récolte. Seulement voilà, la Bretagne est affligée d'un grand fléau. En plus des Korrigans. Et des fées. Et des cochons, et des algues vertes. En plus de tout ça, la Bretagne est affligée d'un fléau, les corbeaux. Ah ça, si vous avez déjà parlé à un cultivateur des corbeaux, il vous le confirmera. Ça arrive en nuée de 20 oiseaux, noirs comme la nuit. Ça tombe sur un champ. Le matin, ça repart le soir, il ne reste plus rien. Alors un matin, Gaël, en se levant, va au champ, et il voit immédiatement qu'il y a des corbeaux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu de bruit, pour les faire partir. Bon, aucun corbeau ne s'en va. Gardez à l'esprit que ce sont des corbeaux bretons. C'est les mêmes auxquels Merlin lançait des cailloux. Hein, donc ils ont vu beaucoup, beaucoup de choses, les corbeaux bretons. Et il entend une petite voix derrière lui qui lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Il se retourne. Petit Korrigan. « Je fais peur aux corbeaux. » Et qui t'en a donné la permission ? Personne. Alors attends, viens t'aider. Et 100, 200, 500 000 Korrigans qui sortent de terre et qui font « Oh, pas grand-chose. » Ah, mais avec 1000 Korrigans... Les oiseaux s'en vont, ils reviennent quelques heures plus tard, hein. C'est quand même des corbeaux bretons. Et toute la journée, Gaël fait ça. Et le lendemain, et le mois suivant, et pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, le blé a vraiment poussé. Et cette fois, il est haut, il arrive jusqu'à la taille de Gaël, et il est blond, d'un beau blond. On sent le goût du pain dans sa bouche quand on regarde ce blé. Et puis voilà qu'un matin, Gaël tombe malade. Il essaye de se lever, il peut pas, il est vraiment trop mal alors... Il fait venir son fils et lui dit « Écoute, c'est tout simple. Tu vas dans le champ à Korrigans, tu fais un peu de bruit pour faire fuir les corbeaux. Les corbeaux battent des ailes. Un Korrigan apparaît derrière toi, il te demande ce que tu fais, tu lui réponds, il te demande qui t'a donné permission, tu réponds personne et il va t'aider. C'est aussi simple que ça. Tu refais ça 2-3 fois dans la journée et c'est tout. » Alors le fils de Gaël va au champ et effectivement tout se passe comme son père l'avait prévu. Il tape dans les mains, Korrigan l'aide, les corbeaux s'en vont. Et puis il attend que les corbeaux reviennent. Il s'ennuie. Il s'ennuie beaucoup quand même. Alors, pour passer le temps, il arrache une petite tige de blé et il mâchonne la racine. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est sucré les racines des tiges de blé. C'est pour ça que Lucky Luke en mâchonne tout le temps d'ailleurs. Et puis il entend une petite voix soudain, une toute petite voix derrière lui qui lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Il se retourne. Le Korrigan se trouve derrière lui. Il a le même sourire, mais ses yeux sont un peu plus moqueurs. « Je mâchonne une tige de blé, » répond l'enfant. « Et qui t'en a donné la permission ?»« Personne, mais c'est bon. » »« Alors attends, on vient t'aider. Et 1000, 2000, 5000 corrigans qui sortent de terre et qui arrachent, oh, pas grand-chose, une tige de blé chacun. Mais à 5000 corrigans, en 2 heures, le blé est rasé. Et le pauvre gamin n'ose plus rentrer chez lui. Alors il se cache derrière un rocher et il attend. Que faire d'autre? Et voilà que Gaël se demande ce que son enfant fait. La nuit commence à tomber, il est toujours pas rentré. Alors, il se lève, parce qu'il n'était pas si malade que ça, il voulait juste passer une journée tranquille. Et il va au champ. Et dans un premier temps, il a du mal à trouver son fils. À trouver le champ. Parce que ça, à sa gauche, c'est bien le champ de navet qui est à la gauche de son champ. Ça, c'est bien le champ de poireaux qui est à droite de son champ. Mais ça, c'est pas son champ. Et pourtant, si, il a la bonne forme, il a la bonne position. Et il a son fils très mal caché derrière une pierre. Et devant la pierre, une petite tige de blé à moitié mâchonnée. Gaël comprend tout. Il attrape son fils et lui colle une baffe retentissante. Et il entend une petite voix derrière lui. Une petite voix derrière lui qui lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Gaël se retourne, toujours tenant son fils par le bras. Le petit corrigan le regarde. « Je frappe mon gamin. » « Et qui t'en a donné la permission ?»« Personne. » ?»« Alors attends, on vient t'aider. » Et 1000, 2000, 5000, 10 000 corrigans qui sortent de terre et qui trappent pas grand-chose, juste ça. Mais avec 10 000 corrigans, le pauvre gamin est KO en 2 minutes. Et c'est Gaël qui n'ose plus rentrer chez lui maintenant. Il se cache derrière le même rocher et il attend. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Et la femme de Gaël commence à se demander ce que son imbécile de mari fait. Alors elle sort de sa cabane et elle a moins de mal à trouver le champ, peut-être parce qu'il y a son fils KO en plein milieu. Et elle comprend à moitié ce qui s'est passé. Elle voit son fils en très mauvais état, probablement handicapé, le champ rasé, et elle tombe à genoux, et elle se lamente, et elle s'en arrache les cheveux, et elle entend tout à coup une petite voix derrière elle qui lui dit « Hé, qu'est-ce que tu fais ?»« Je m'arrache les cheveux !»« Et qui t'en a donné la permission ?» Sans réfléchir, elle répond « Personne !»« Alors attends, on vient t'aider. » Et 5000, 10 000, 20 000 corrigans qui sortent de terre et qui arrachent, oh, pas grand-chose, un cheveu chacun. Ah, mais à 20 000 corrigans, en quelques minutes, elle est complètement chauve. Et Gaël fait le bilan de son aventure. Il regarde autour de lui. Une année de travail perdue, ses économies englouties. Son fils, probablement handicapé. Sa femme chauve, ça compte. Et il pleure. Vous pouvez pas lui jeter la pierre, n'importe qui pleurerait à sa place. Voyez tout ce qu'il a vécu. Il pleure des grosses larmes et il entend tout à coup une petite voix derrière lui qui lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Et sans se retourner, il sait que le corrigan a un sourire tellement grand que s'il était plus grand, la partie supérieure de sa tête tomberait par terre. Je pleure. Et qui t'en a donné la permission? Personne. Alors attends, on vient t'aider. Et 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million de corrigans qui sortent de terre, tous les corrigans de Bretagne qui sortent de terre dans ce petit champ et qui pleurent. Qui pleurent des larmes gigantesques. Ils pleurent tous ensemble. Et l'eau monte au rythme de leurs pleurs. Et Gaël a fini de pleurer. Mais l'eau ne s'arrête pas de monter pour autant. Alors, se jetant sa femme sur une épaule et son fils sur l'autre, il court. Et l'eau monte derrière lui, le rattrape. Il arrive au sommet d'une colline et, exténué, tombe, s'attendant à être englouti. Et l'eau s'arrête à ses pieds, ayant atteint le niveau de la mer. Gaël n'a plus jamais eu aucun contact avec les êtres féeriques, bien pire, il les a évités comme la peste toute sa vie. Il a travaillé dans les champs des autres, et grâce à ça, il a pu nourrir sa femme et son enfant. Et vous savez quoi? Quand il est mort, il avait économisé assez d'argent pour que son fils achète un champ, le premier champ de sa famille. Quant au petit lac formé par les larmes des corrigans, oh, il est toujours là, il a rejoint la mer, il a formé comme une petite mer à l'intérieur des terres. Et c'est exactement comme ça que les Bretons l'ont appelé, la petite mer, dans leur langue chantante, Morbihan. Morbihan. C'est beau, n'est-ce pas? Une première question se pose. Pourquoi ce conte? Ce n'est pas une question rhétorique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce conte, entre tous les contes que je connais, pour commencer cette émission? Pourquoi est-ce que tous mes amis connaissent ce conte? pourquoi est-ce que je le raconte à tout le monde en permanence? Ce conte est un parfait représentant du genre. Il contient certains des mécanismes les plus visibles, les plus courants. Il contient des lutins, de la magie, des phénomènes inexpliqués. Et en cela, il est le parfait conte d'introduction pour moi. Mais une autre question se pose. Pourquoi cette version du conte? Parce que, voyez-vous, le conte que vous venez d'entendre, pour être honnête avec vous, n'est sans doute pas breton. Je le connais, pour tout dire, en quatre versions différentes. Une version turque, une version qui nous vient d'Afrique noire, une version ardéchoise et une version bretonne. Alors pourquoi la version bretonne? Pourquoi est-ce que c'est la version que je raconte à chaque fois? Parce que j'aime la Bretagne? Non, je l'aime, mais ce n'est pas la raison. Parce que se situant en France, c'est plus reconnaissable pour mes auditeurs? On s'en approche un peu plus, mais c'est pas encore tout à fait ça. La raison pour laquelle j'aime cette version tient dans son dernier mot, Morbihan. Ce mot seul justifie l'utilisation de ce conte en introduction. Ce mot ancre le conte immédiatement dans quelque chose que vous connaissez, la Bretagne, le golfe du Morbihan, son origine rêvée, complètement fausse sans doute, peut-être vraie. Ce simple mot a plus de puissance évocatrice que le reste du conte. Et grâce à lui seul, le conte s'ancre dans les mémoires. Je l'ai raconté, voilà, à 5 ou 6 ans à un ami, ce conte. Et 4 ans plus tard, lorsqu'il est allé faire un voyage en Bretagne, quand il est revenu, la première chose qu'il m'a dit, à part bonjour, c'est « Je suis passé dans le golfe du Morbihan et j'ai pensé à ton conte. » Le conte reste, il a un lien à la terre. Et c'est ces contes-là qui marchent le mieux, ceux auxquels on peut s'identifier, ceux qu'on peut voir arriver autour de nous. Pour passer à l'analyse, je tiens à m'excuser une fois de plus, je m'excuse beaucoup dans cette émission, je tiens à m'excuser une fois de plus, d'avance, aux étudiants en lettres, en philosophie, aux professeurs et à tous les experts en rédaction. Je vais séparer le fond et la forme. Je sais que c'est très déconseillé, mais en termes de conte, l'explication est là. Le fond et la forme suivent deux évolutions radicalement différentes. Le fond évolue en fonction du milieu. Le fond évolue en fonction de la culture. La forme évolue en fonction du conteur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. D'ailleurs, la forme, parlons-en. On remarque immédiatement, en écoutant ce conte, une répétition. Le ressort le plus utilisé dans les contes. Le chant qui revient, les korrigans qui sortent de terre. Hé, qu'est-ce que tu fais? La répétition. Pourquoi? La répétition, on la retrouve dans beaucoup de contes, parce qu'elle découpe. Elle découpe en parties faciles à retenir. Un conte découpé et répété se retiendra plus facilement, se racontera plus facilement, marquera tous les esprits, surtout ceux des enfants, et sera beaucoup plus facile à intégrer et à comprendre, étant découpé en parties. J'ajoute dans ce conte, personnellement, un second ressort, qui est l'escalade, la gradation. Souvenez-vous, la première fois que les korrigans sortent de terre, combien sont-ils? 10. La seconde fois 50. La troisième fois 100. Et lorsqu'à la fin, tous les korrigans de Bretagne sortent de terre, vous n'êtes pas étonné. Et c'est là que c'est fort. Imaginez un instant que la première fois que Gaël arrive dans le champ, tous les korrigans de Bretagne sortent et lui disent « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» Imaginez. Vous n'y croiriez pas une seconde. Si quelque chose vous dirait, ce n'est pas logique. Tous les korrigans de Bretagne, c'est n'importe quoi, il y en a beaucoup trop. Et bien voilà. J'ai commencé par 10, et petit à petit, je vous ai fait accepter des nombres de plus en plus grands. Jusqu'au moment où tous les korrigans de Bretagne assemblaient quelque chose de raisonnable, parce que ça mettait l'emphase sur le moment pivot du conte. Le moment où les korrigans pleurent, le moment où Gaël reçoit son dû. Il me fait une transition toute trouvée, pour le fond, d'ailleurs. Parce que, vous voyez, quelque chose qu'il faut faire sur les contes, c'est chercher la morale. Attention, je ne dis pas qu'il y en a toujours une. Et quand il y en a une, je ne dis pas qu'elle est volontaire, la morale. Je ne dis pas qu'elle a été mise là, volontairement. Mais c'est toujours intéressant de la chercher. Et quand on la cherche dans ce conte, on en trouve deux qui se battent entre elles. La première, c'est la plus évidente. On ne s'approche pas des créatures magiques. On ne passe pas de pacte avec les korrigans et on s'en tient éloigné le plus possible. C'est une morale qu'on retrouve dans beaucoup de contes. Et la plupart de ces contes nous viennent tout droit de la christianisation, de l'époque où les chrétiens ont tenté d'éradiquer les racines païennes des croyances. La culture orale a toujours été un outil de manipulation, entre autres. Tout le monde connaît la culture orale, c'est quelque chose de populaire. Et en montrant ainsi les korrigans et les créatures magiques en général comme synonymes de mal, les chrétiens, si c'est bien d'eux que vient ce conte, ont cherché à faire accepter l'idée du mal païen. J'ajoute à cela le fait que Gaël, à la fin du conte, opère une sorte de rédemption lorsqu'il se remet à travailler dans les champs, et la rédemption lui est accordée lorsque son fils a assez d'argent pour s'acheter son propre champ à la génération d'après. Ce qui est une idée très chrétienne tout de même, la rédemption. Et la rédemption, comment l'obtient-il ? Par le travail. Et voilà la seconde morale. Travaillez. Soyez humble. Souvenez-vous, parce qu'il est important pour trouver la morale de se souvenir de l'élément perturbateur. L'élément perturbateur à première vue est l'apparition des korrigans. Mais le véritable élément perturbateur, c'est ce matin où Gaël ne supporte plus d'être humilié à travailler dans les champs des autres. C'est ce jour où Gaël se dit qu'il vaut mieux que ça. Et c'est là que le conte révèle son véritable message. Si vous devez travailler pour survivre, travaillez pour survivre. Pourquoi un message pareil ? Je l'ai dit tout à l'heure. Le conte est populaire. La tradition orale, la culture orale, appartiennent au peuple. Et le peuple, que doit-il faire à tout prix ? Surtout en des temps médiévaux. Survivre, travailler, nourrir sa famille. Aussi, si on cherche dans beaucoup de vieux contes, on retrouve des morales. Ne vous approchez pas des bêtes féroces. Ne partez pas de chez vous. Soyez humble, travaillez. Et dans ce cas-ci, comme La Fontaine l'a si bien dit lui-même, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis heureux de voir que des gens s'intéressent à la culture orale. Et puisqu'il me reste quelques temps, je vais vous faire partager une énigme nordique. Et je vous donnerai la réponse à la prochaine émission, bien sûr. Enfant de la forêt, tant de chemins je passe, agile et gracieux sans y laisser de traces. C'était Grimage sur Campus Grenoble 90.8. Bon courage et bonne journée.